Bon, quand on dort, notre âme pure, qui est extrêmement divine, quitte notre corps. Partout où il y a un vide, il y a la touma qui s'installe, l'impureté. Un mort, il est impur. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui une âme très grande qu'il a quittée. Ça crée un vide. Donc il devient tamé. Il y a des forces impures qui rentrent. Une femme qui a ses menstruations, elle est très impure. Pourquoi? Parce qu'elle avait un potentiel de vie, donner la vie, et quand elle a ses menstruations, ce potentiel n'est pas utilisé, donc il y a ici, on appelle ça l'impureté. Quand l'âme réintègre le corps le matin, alors toute cette touma, ces forces impures, se quittent le corps, mais elle peut pas complètement quitter le corps, elles se réunissent toutes au bout des mains et au bout des pieds. Le seul moyen de faire partir ces forces impures, c'est au moyen de faire une klatet d'ayin, on se lave les mains le matin. Comment? On se lave les mains de façon alternative. Avec d'abord sur la main droite, ensuite sur la main gauche, de nouveau sur la main droite, ensuite sur la main gauche, troisième fois sur la main droite, troisième fois sur la main gauche. C'est bien aussi pour le gars de Vilna de faire une quatrième fois sur la main droite et sur la main gauche. Pas obligatoire, conseillé. Celui qui veut faire, il dira avant cela, Bli Neder, je prends sur moi de me laver les mains quatre fois le matin. Ce n'est pas obligatoire, à chaque fois qu'on prend sur soi une chose qui n'est pas obligatoire, elle devient un neder, elle devient un vœu. Mais si on dit que c'est sans neder, bli neder, sans que ce soit un vœu, alors on peut continuer et s'arrêter quand on veut. On a aussi cette impureté qui est au bout des pieds. On ne fait pas une tatédaïm aux pieds, une raglaïm, d'accord. À l'époque du temple, au temple, qui est un endroit extrêmement saint, alors on pouvait le faire et on devait le faire. Les Kohanim, qui faisaient le service sacerdotal, autant faisaient aussi une tatadaïm des pieds. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc, il suffit d'enlever l'impureté des mains. Nous sommes tous impurs de toute façon. Mais on a plusieurs degrés d'impureté. Cette impureté extrêmement forte. Le Zohar, il dit que celui qui fait plus de 4 pas, donc 2 mètres le matin, sans faire une tatadaïm, il est chayav mita, il est passible de mort. C'est très grave. Donc, on fera attention de faire une tatadaïm le matin, dès qu'on se lève, si possible, près du lit. Comment on fait? Dès qu'on ouvre les yeux le matin, on dit « Modéani lefanecha, je te remercie, roi vivant et existant, que tu as rendu en moi mon âme, Bechemla, avec miséricorde, rabbi monotera, grand état fidélité, grand état confiance que tu me rends, mon âme, tous les matins. » Après qu'on ait dit cela, on fait attention de ne pas se toucher avec les mains, vu qu'elles sont impures, de ne pas toucher quoi que ce soit. À la rigueur, on peut toucher les habits pour s'habiller, parce qu'il faut bien. Mais en tout cas, on ne doit pas toucher les orifices du corps, soit les yeux, narines, bouche, oreilles, organes sexuels et anus. Toutes ces parties-là ne doivent pas être touchées avec les mains. Si ça nous gratte, alors on peut se toucher au moyen d'un habit, au moyen du drap ou quelque chose. On peut se gratter même au milieu de la nuit. Si on veut se gratter, on le fera au moyen de quelque chose, d'accord? Parce que ces forces impures sont très présentes et elles rendent impures. Ensuite de quoi? Le mieux, si on a une bassine près du lit, on fait une tatadaïm comme j'ai dit. Sinon, on avancera moins de 2 mètres, donc environ 3 pas, on s'arrête. On refait 3 pas, on s'arrête, on peut faire comme ça une centaine de mètres. On peut faire tant qu'on veut, d'accord? Jusqu'au lavabo. On arrive au lavabo et on fait une tatadaïm. Est-ce qu'on fait la bracha, oui ou non? D'habitude, non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller aux toilettes, on ne peut pas faire une bracha alors qu'on a besoin d'aller aux toilettes. Donc première chose, on se lave les mains. Après, on va aux toilettes. Si quelqu'un a très très besoin d'aller aux toilettes, alors il est interdit de se retenir d'aller aux toilettes. Alors il passera outre pour le moment le fait de se laver les mains. Il ira directement aux toilettes. Une fois qu'on sort des toilettes, là on se lave les mains. Si on a le lavabo qui est hors des toilettes, alors on se lave les mains 3 fois comme je l'ai dit ou 4 fois, et on fait la bracha. À une tatadaïm. Comment on fait? Donc on procède 3 ou 4 fois. Après, avec les mains mouillées, on lève les mains mouillées à hauteur du visage, et on dit Bahou Hata Hashem le Kalum Alecholam, Sharkedeshan, Bemesabano, Al Natilat Yadaim. Et après, on fait ça le bras avec les mains mouillées. Après cela, on essuie les mains. Ensuite,
Va-t-on de s'arrêter un certain temps?
Un certain temps. On s'arrête un certain temps. Ouais, très peu. Tac, 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 voilà. Une demi-seconde. Une fois qu'on a fait une Natilat Yadaim, il est bien de juxtaposer, de faire trois brachot. De suite, Netilat Yadayim. Après, Ashar Yatzar, c'est la bracha qu'on fait sur le fait d'être allé aux toilettes. Si on était aux toilettes, on ne fait pas Ashar Yatzar si on n'a pas été aux toilettes. Quelqu'un se lève le matin qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes, il ne fait pas Ashar Yatzar. Ou il se lève déjà il y a 1 heure, maintenant il se lève de nouveau pour le matin, il n'a pas envie d'aller aux toilettes, il ne fait pas la bracha Ashar Yatzar. Mais s'il a été aux toilettes, il fait la bracha Ashar Yatzar et après il fait Elokai Neshama. Il est bien de juxtaposer ces trois brachot. Si jamais il n'a pas été aux toilettes, il ne fait pas Ashar Yatzar. La bracha Eloka Neshama, on devra la juxtaposer à une autre bracha. Pourquoi? Parce qu'elle ne commence pas par le mot Baruch. Or, tous les brachas doivent commencer par le mot Baruch. Alors, il faut la juxtaposer à une autre bracha qui commence par Baruch. Si je l'ai fait une clé d'aïm, je me suis les mains, je fais Eloka Neshama. Si j'oublie de faire Eloka Neshama, je peux commencer à faire Birkot HaShachar. Je dis par exemple la première bracha de Birkot HaShachar. Bor Tachem Nekol Amel Cholam, l'antenne a servi d'un après une ben yom ouven laïla. Eloka Neshama Shantabit et Hora. L'interdiction de faire plus de 2 mètres sans faire Netlat Adaim est uniquement si on a été dormir avant le minuit juif. Minuit juif, il bouge durant l'année. D'accord ? D'abord, il y a l'horaire d'été, l'horaire d'hiver. Ensuite, même durant ces périodes-là, il bouge environ d'une demi-heure. Actuellement, le minuit juif ici en Israël, il est à minuit moins 10. Donc si quelqu'un s'est endormi après minuit moins 10, il peut le matin faire plus de 2 mètres sans faire Netlat Adaim. D'accord ? Il sera bien néanmoins de ne pas toucher les orifices. C'est permis, c'est beaucoup moins grave, mais ça sera bien de ne pas toucher les orifices. Le grand moment de Touma qui rentre dans l'être humain, c'est à minuit. Quand tu dors à minuit, à ce moment-là, tac, tu reçois beaucoup. Tam mota, c'est marqué. Tu goûtes au goût de la mort. Donc c'est bien, si possible, celui qui peut ou se réveiller à minuit pour faire Tikkun Ratzot, ou aller dormir après en faisant Tikkun Ratzot, c'est comme ça, il évite de toucher au goût de la mort, c'est préférable. Tof, qu'est-ce qu'il nous reste à dire encore qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce qui se passe maintenant si quelqu'un, il a le lavabo dans les toilettes. Lorsqu'on rentre dans les toilettes, même si on rentre sans faire ses besoins, dès qu'on ressort, on doit faire une tête d'aim, si possible, 3 fois. Parce que les toilettes en soi, c'est un endroit qui est impur. Même si on rentre son petit doigt ou sa main, c'est bien. On peut rincer sa main au lavabo, il faut le faire. C'est bien aussi, si possible, de faire une tête d'aim 3 fois sur les deux mains, en alternance 3 fois, parce que les toilettes sont un endroit qui est impur. On peut pas, par exemple, quelqu'un maintenant, il a oublié sa brosse à dents, il rentre maintenant pour sa brosse à dents dans la toilette, il ressort et il va faire la prière. Exclu. Il faut se laver les mains, il faut être propre pour faire la prière, donc il faut se laver les mains. Je vous rappelle en passant qu'on doit se laver les mains obligatoires avant chaque prière. Shachrit, mincha, arvit. C'est pas que à shachrit, d'accord? Vous avez les mains avant la prière, sans bracha. La seule fois où on fait la bracha de tête d'aim sans manger du pain, on fait la bracha sans manger du pain, c'est le tetadaim du matin. Toutes les autres fois, on se lavera les mains après les toilettes, avant la prière, etc. Pas quand on mange du pain, on fera pas la bracha de l'etat yadaim. Oui.
Ah, vous dites qu'il faut refaire
l'etat yadaim,
mais il faut refaire l'etat yadaim, enfin sans la bracha, mais à l'extérieur des toilettes.
Oui. Donc si quelqu'un maintenant, il a un lavabo qui est dans les toilettes, alors la première fois, il fait l'etat daim, vu qu'il ne va pas faire la bracha maintenant, qu'il le fasse dans les toilettes. Après, il va faire ses besoins. Après, on va dire, il refait encore une fois dans les toilettes, qu'il fasse dans les toilettes sans faire la bracha. Il y a un autre moyen de faire, on peut faire comme ça. J'ai expliqué maintenant quoi. Quand on faisait l'etat daim, on est là aux toilettes, après on fait l'etat daim et les 3 brachot. Il y a un autre moyen de faire, c'est faire un netlat yadaim, aller aux toilettes, refaire un netlat yadaim sans se laver les mains, s'habiller totalement, et là qu'on a fini, vu que lorsqu'on touche les chaussures par exemple, il faut faire un netlat yadaim aussi. Si on touche une partie qui est couverte du corps, la poitrine, on se gratte dedans, on se gratte les cheveux, on se gratte dans les oreilles, d'accord, tout cela il faut faire un netlat yadaim. Donc quelque part, je fais un netlat yadaim avec bracha avant de m'habiller, après je refais un netlat yadaim, ça fait un peu double emploi. Donc, il y a le choix, les deux sont possibles. Ou on fait comme je l'ai dit première fois, on fait le netlat yadaim sans bracha, on va aux toilettes, après on fait le netlat yadaim hors des toilettes avec bracha, Asher Yatzar Eloka Neshama, après on s'habille, on refait le netlat yadaim avant la prière, sans faire la bracha. Deuxième option, la bracha que j'ai fait maintenant en deuxième position, je la fais en troisième position. Je récapitule comment ça fait, je me lève, je fais le netlat yadaim sans bracha, je vais aux toilettes, je me relave les mains netlat yadaim maintenant dans les toilettes ou hors des toilettes, peu importe, je ne fais pas la bracha, aucune bracha, je m'habille totalement, et maintenant que je suis complètement prêt pour la prière, je fais netlat yadaim hors des toilettes, et là je fais les 3 brachot, netlat yadaim, Asher Yatzar, Eloka Neshama. C'est clair, c'est pas compliqué. Les deux options sont bonnes.
J'ai entendu dire que si la cuvette des toilettes était baissée, ça pouvait passer.
Ça aide un peu, mais c'est tout ça c'est diavad. Les toilettes que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes toilettes qu'il y avait à l'époque. Ils sont moins impurs. C'est-à-dire que dans des cas extrêmes, on peut considérer que l'endroit des toilettes, ce n'est que la cuvette. Et là, qui disent que c'est la couverte, c'est aussi moins grave. D'accord ? Mais on considère qu'au-dessus de la cuvette. Par exemple, dans les hôtels, tu n'as pas de robinet hors des toilettes dans ta chambre. Tu habites au 11e étage, il faut descendre jusqu'au rez-de-chaussée, trouver un robinet avec un Kelly, c'est pas possible. Alors, dans des cas pareils, on peut autoriser et dire que tu fais une tête d'aim dans les toilettes, tu sors à l'extérieur des toilettes, tu fais la bracha à l'extérieur, ça peut être valable. Mais c'est pas génial. Le mieux, c'est faire une tête d'aim sur un lavabo qui est hors des toilettes. Si on n'a pas le choix, on fera comme j'ai dit. Dans un avion, par exemple. Quelqu'un, il rentre dans les toilettes, fait Netilat Haïm dans les toilettes. Pas pour manger, hein. C'est difficile pour moi, enfin, faire un clé. Bon. En tout cas, quelqu'un il va aux toilettes, par exemple, dans un avion. Maintenant, il veut sortir des toilettes, il n'y a pas d'eau. Il faut rentrer dans les toilettes de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, considère, vu que c'est une toilette provisoire, c'est pas un vrai toilette, que tant qu'il n'est pas au-dessus de la cuvette, c'est hors des toilettes. Mais tout ça, c'est média, c'est à posteriori quand on n'a pas le choix. A priori, pour être bien pur, c'est bien faire hors des toilettes. Je rappelle en passant qu'un des secrets de la tahara, de la pureté qui permet de se rapprocher beaucoup de Dieu, c'est la pureté des mains. Il est très important, durant toute la journée, d'avoir les mains pures, quand on étudie la Torah, quand on prie, etc. Quelqu'un qui se gratte les cheveux, j'en vois souvent. Souvent, mais des gens religieux, ils se grattent les cheveux. Tu n'as pas le droit de continuer à étudier comme ça. C'est interdit. Il faut bouger sa paresse énorme, aller jusqu'au lavabo, se laver les mains. Quelqu'un qui se gratte dans les oreilles, trrr, d'accord. C'est pour ça que vous verrez les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se grattent avec la kippa. Là, vas-y, gratte-toi comme un fou. Il n'y a aucun problème. Tant que tu ne touches pas le cuir chevelu, ça va. Toucher un peu les cheveux comme ça va. Mais gratter, toucher le cuir chevelu, ça ne va pas. Et avec les ongles, tu touches le cuir chevelu, terminé. Là, il faut faire un Netilat Yadayim, se laver les mains. On peut s'essuyer, c'est pas génial. Franchement, si on veut maintenant se purifier bien, on va se laver les mains. Pas besoin de faire trois fois, c'est bien, mais pas obligatoire. Il suffit de se laver les mains, c'est une question de saleté, c'est pas une question d'impureté. Si on s'est gratté quelque part, on a touché les chaussures. Des fois, des gens étudient, ils tiennent la chaussure en étudiant. Ça va pas. Ça va pas. C'est complètement interdit. Oui, tu peux étudier comme ça. Tu peux même, comme je l'ai dit, tu peux maintenant, regarde, comme tu vois là, je suis en train d'étudier, je me touche les cheveux, ça va. Je parle de gratter le cuir chevelu. Sur le cuir chevelu, il y a une couche de, on appelle la kératine, je ne sais pas ce que c'est comme, peut-être le sérum, d'accord, c'est gras comme ça. Ça, c'est considéré comme une saleté. Par contre, tu peux te gratter la barbe. Vu que la barbe, tu n'as pas ça, c'est propre sous la barbe. Normalement, c'est propre, d'accord. Tu te grattes, il n'y a aucun problème, tu peux continuer à étudier. Les oreilles, dans les oreilles, tu as aussi un peu de schnurk, d'accord, ça ne va pas. Les yeux, ça va. Les yeux, on considère que ce n'est pas quelque chose qui est sale, même si tu as un peu de sécrétion des yeux qui sort, on n'a pas besoin de faire des catadines. Pour le reste, c'est obligatoire. Et je vous dis, c'est un secret pour accéder à la pureté. Bon, Baruch HaShem, on a fait les catadines. Oui, il y a une question?
Oui, vous pouvez préciser qu'il ne faut surtout pas utiliser l'eau des
oui, alors je viens de voir maintenant, je fais une petite correction là-dessus. C'est vrai que l'eau des catadines est extrêmement impure, on n'a pas le droit de lire des paroles de Torah à côté d'elle. Néanmoins, si on a versé d'un coup Revi'it, c'est 86 millilitres. C'est à peu près dans un verre pareil, c'est à peu près comme ça. D'accord? Normalement, en une fois, on le met. Si on a mis en une fois 86 millilitres, il n'y a déjà pas d'impureté. La pureté elle est annulée, donc on pourra dire des paroles de Torah à côté de cette eau qui n'est plus impure. Si on n'a pas de keli, alors on fera BD. Alors, il y a une marloquette. Pourquoi est-ce qu'on doit faire l'Etatalim le matin? Il y a quatre avis. Un avis qui dit, parce qu'on s'est sali les mains durant la nuit, on a touché des parties intérieures du corps. Un avis qui dit que, à l'instar des Kohanim au temple qui se lavaient les mains avant le service, nous aussi maintenant on va servir Dieu, on va faire des mitzvot, on va prier, on doit aussi se laver les mains. Un troisième avis, eux pourquoi ils le faisaient aussi, c'était pour une pureté.
C'est la première.
Non, eux c'est pas forcément le matin, quelqu'un il allait faire un service sacerdotal à 5h d'après-midi, il devait se laver les mains avant, d'accord. Nous aussi, on veut qu'on se prépare à faire aussi un service de Dieu, à l'instar des Kohanim. Troisième raison, que le matin on est Briah Hadash, une nouvelle création, et donc il faut se laver les mains aussi pour commencer bien. Quatrième raison, c'est le Zohar qui dit qu'on a goûté au goût de la mort, on a sur soi un rouar, un esprit d'impureté, et il ne part qu'en faisant un Netilat Yadayim. D'après les trois premiers avis, il ne faut pas forcément faire un Netilat Yadayim comme ça, de façon en alternance. On peut le faire aussi trois fois et trois fois. Et ça, c'est d'avoir les mains propres. Mais pour la quatrième raison, celle du Zohar, qui dit que l'esprit impur se trouve sur nos mains, cet esprit impur est extrêmement entêté, il reste sur nos mains. Le seul moyen qui part, c'est seulement si on fait en alternance. Je peux faire 10 fois sur une main, après 10 fois sur l'autre, ça reste. C'est obligatoire de faire en alternance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'avis du Gaon de Vilna qui dit même 7, 8. D'accord? C'est le seul moyen pour que ça parte. Donc pour être certain maintenant, si quelqu'un il n'a pas un keli, il n'a pas un ustensile, il fait au robinet, d'après les trois premiers avis, ça va. Mais d'après le Zohar, ça ne va pas. Est-ce qu'il fera la bracha, oui ou non? Il ne fera pas la bracha. Parce qu'un safek, d'après le Zohar, tu n'as pas fait comme il faut. Donc il fera 100 bracha, avec le robinet comme ça par exemple. Après, il ira même sa prière s'il y a besoin. Tant qu'il n'a pas découvert d'eau, il n'a pas trouvé un keli, il pourra faire comme ça. Dès qu'il voit un keli, il devra faire l'intilat adaim. Et là, est-ce qu'il fait la bracha, oui ou non? Bah, de nouveau, on a un safek. Peut-être que tu étais rendu quitte avant. Et maintenant, t'es pas, c'est déjà trop tard pour faire avec bracha. Donc, de nouveau, on fera pas la bracha. Donc, en cas où on n'a pas le choix, on pourra faire l'intilat adaim sans keli, sans ustensile.
Pourquoi c'est quoi le problème du robinet? Je veux dire, ça coule, il peut faire une alternance aussi. Pourquoi le problème par rapport au keli?
C'est une marloquette. Est-ce qu'il y a besoin dans l'étalage d'aim du matin, ouais, des mêmes conditions qu'il y a pour l'étalage d'aim qu'on fait pour le motzi, pour manger du pain? Des avis qui disent que oui, des avis qui disent que non. Le Zohar, il dit que oui, il faut le même exactement, de l'eau qui soit pure, qui n'a pas été utilisée pour autre chose, dans un keli, etc., qui s'amène par une force humaine, d'accord. Pas tout le monde d'accord avec cela. Les trois premiers avis que je dis ne sont pas d'accord avec cela. Mais vu qu'il y a ici plusieurs avis, donc, pour être certain de faire bien, en fait, d'après les quatre avis.
Et pour le keli, il ne faut pas qu'il y ait un bec verseur?
Parce qu'il faut que ça vienne de Kohar Gavra, il faut que ça vienne par la force de l'homme. Or, s'il vient par un bec verseur, ce n'est pas moi. C'est un trou et par lequel ça coule. Donc ça vienne par ma force à moi.
Et juste quand vous dites pour se gratter, je veux dire, avec la peau, si on se gratte la tête, on doit se laver les mains. C'est par mesure d'hygiène ou de
terreur? C'est par mesure de propreté. Mais ça a à voir avec la pureté. C'est pas une question de Tum'a qui a une force impure ici. Mais quand tu as les mains propres, la Lacha dit comme ça, quand tu as les mains sales, tu dois te laver les mains, et ta Torah et ton étude aura beaucoup plus d'impact. Attends, excuse-moi, il était avant, le pauvre jeune homme.
Normalement, d'après le Zohar, est-ce que le motion on devrait faire?
Non. Non, non, non. Non, parce qu'il n'y a pas de force impure ainsi, non.
Dans les toilettes ici.
Oui.
Donc ils sont. Si maintenant on met un rideau, on se sépare.
Ça sert à rien. Pour séparer les toilettes et autre chose, il faut faire une chose qui s'appelle Surat HaPetar. Surat HaPetar, c'est une allure d'ouverture. C'est quoi une allure d'ouverture? Deux poteaux et un linteau. C'est quoi deux poteaux? Il faut mettre sur le côté des toilettes une barre, même une planchette, ça va, de bois, qui soit au moins 96 cm de haut, des deux côtés, et en face d'elle, en haut sur le plafond, je mets quelque chose qui se pose dessus, qui se pose. Il peut être posé, il peut être collé là-haut, mais qui est perpendiculaire au-dessus des planches. Pas comme ça, pas comme ça, mais comme ça. D'accord? C'est-à-dire que si j'ai ici ma planchette qui s'arrête à 96 cm de haut, je mets au plafond, je mets encore une planchette, ou même un fil, ça suffit. Quelque chose qui soit exactement au-dessus. Ça crée une ouverture. Et d'après la loi, maintenant, je suis dans un autre domaine. Je peux faire moussaf de Yom Kippour, là. Que je sois dans les toilettes. Mais pas en face du bidet, parce que je n'ai pas le droit de faire prononcer le nom de Dieu en face du bidet. Mais si je me tourne, par exemple, je peux faire moussaf de Yom Kippour.
Même si c'est pas fermé avec un rideau?
Ouais. Même si c'est pas fermé avec un rideau, c'est un autre domaine. Par contre, si tu n'as qu'un rideau, et tu n'as rien d'autre, c'est le même. Regarde, des fois, dans le mikvé. Le mikvé, l'endroit des douches publiques est considéré comme les toilettes. Comme les toilettes. Maintenant, les vestiaires, non. Tu peux, par exemple, dans les vestiaires, penser des paroles de Torah. Tu n'as pas le droit, dans les douches publiques, de penser des paroles de Torah. Maintenant, est-ce que je peux, dans les vestiaires, penser des paroles de Torah? Oui, si ce n'est pas les douches publiques. C'est à condition que quoi? Qu'il y ait une séparation très claire entre les douches publiques et les vestiaires. C'est quoi la séparation? Un rideau? Non, ça vaut rien. Il est nécessaire qu'il y ait sur ta pétard, que tu aies deux poteaux et un linteau. D'accord? Comme une porte. Si tu n'as pas ça, c'est le même domaine. Et tu n'as pas le droit de penser même des paroles de Torah. Oui.
Question pour les tchats du matin. Quand on fait les tchats le matin, alternance, d'accord, est-ce qu'on est obligé de s'essuyer les mains en sortant sans bracha? Si on fait 1, 2, 3, et après on fait un toilette directement.
Non, pas obligatoire. Ah, on avait posé la question. Ouais. Alors, est-ce qu'on a ta question? Est-ce que si je me lave les mains en alternance le matin la première fois, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je dois m'essuyer les mains, oui ou non? Marloquette.
Les mains, je peux m'essuyer, mais à l'intérieur des toilettes.
Dans les toilettes. Marloquette. Il y en a qui disent que l'eau que tu as après 6 fois, elle est impure encore. Comme ça, il est le grand vilain, parce que lui, il nécessite de faire une quatrième, une huitième fois, 7-8. D'accord? 7-8, ça va.
Non, mais je parle d'essuyer. Si tu as fait six fois,
il faut essuyer, parce qu'il y en a qui disent qu'au bout de 6 fois, l'eau que tu as sur tes mains, elle est encore impure. Donc, c'est pas bien de rester avec l'eau impure. Donc tu t'essuies, bien que tu es dans les toilettes, tu t'essuies, et après tu fais tes besoins.
Ouais. Il vaut mieux faire comme le gars, parce que même après, c'est très sûr, on a toujours un peu d'eau. C'est genre t'essuies tout.
Bon, d'accord, toujours bien de faire d'après le gars, c'est vrai, mais c'est pas obligatoire. Ok. Comment fait-on maintenant pour s'habiller? Alors, d'abord, il faut savoir que quand on s'habille, on passe d'habit à habit. Il y a une très très malheureuse, très 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 mauvaise, très interdite façon que beaucoup de gens ont de dormir, qui est de dormir à moitié nu. La Torah interdit cela. On doit être tsanou, on doit être pudique. Il est interdit de dévoiler sa chair. On peut dévoiler sa chair, la face, la nuque, les mains, les bras jusqu'au coude, c'est tout. Les pieds éventuellement marloket, il y en a qui disent. D'accord? Le reste, on ne peut pas. Si c'est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Par exemple, dans la douche, je ne vais pas maintenant me doucher avec mon costume. Ce n'est pas intelligent. D'accord? Donc je peux enlever, et dans la douche, je suis tout nu. Au mikvé, on est tous tout nus. Ok, il n'y a pas le choix, on ne va pas venir se doucher dans la douche publique avec en costume. D'accord? Mais hors de la nécessité, même dans la salle de bain, tu as fini maintenant de te doucher, rapidement, tu t'habilles. Parce que melo arrête que vos dos. La présence de Dieu remplit le monde entier. Dieu, il est présent dans les toilettes, dans la douche, dans le noir. Les gens qui éteignent la lumière pour rester tout nus pour se changer. Non, ça n'a rien. Dieu, il voit aussi dans le noir. Il a un système de vision nocturne, d'accord? Donc, il est nécessaire de dévoiler sa peau au minimum. Ça amène beaucoup de sainteté sur la personne. Ça aide beaucoup la relation avec Hachem. Parce que lorsqu'on dévoile sa peau, on devient grossier. On est attaché à sa chair, on est attaché à son corps. C'est comme ça, c'est une chose qu'il faut vivre. Ce n'est pas une chose qu'on peut comprendre. Quand on devient tsanou, on devient pudique, alors on crée avec Dieu une relation qui est beaucoup plus intérieure. Pour qu'il y ait de l'intériorité, il ne faut pas qu'il y ait de l'extériorité. L'extériorité, c'est quand je dévoile ma chair. Donc, pas de question de dormir en culotte, pas question de dormir qu'en pantalon avec le torse nu, ou pire, d'accord?
Dormir, il y a la couverture.
Si tu dévoiles rien du tout quand tu as sous la couverture, ça va. Le Shulchan Aruch, il dit comment aller dormir le matin, le soir, se déshabiller, et comment le matin s'habiller. Il dit que tu mets ta djellaba, le soir, tu vas dormir, tu rentres les pieds dans le lit, tu prends la couverture, et quand, en même temps que tu mets la couverture, tu enlèves la djellaba, et hop, tu l'enlèves comme ça, et personne n'a vu ta chair. Le matin, tu veux te lever, tu prends la djellaba, tu l'enfiles, et quand tu mets la djellaba, hop, tu fais descendre la couverture. Donc on n'a jamais vu de ta chair. Nous, on ne dort pas en djellaba, d'habitude, alors, comment on fait? On enlève le pantalon, on met une chemise sur le pantalon. Ou on se met en peignoir, on enlève le pantalon sous le peignoir. Ou on met une couverture, et on enlève le pantalon sous le peignoir, on met un autre pantalon. On ne dévoile pas sa chair. Le maillot de corps, on ne peut pas changer le maillot de corps autrement. Si on veut changer le maillot de corps, alors là, forcément, on devra montrer son torse. Mais on ne le fait pas aussi en public devant tout le monde. Avec la pudeur, tu vas dans la salle de bain, tu le fais là-bas rapidement. Donc, nécessaire de s'habiller avec tsniout. Maintenant, il y a un ordre pour s'habiller. On commencera, si possible, par toujours mettre la manche droite et mettre le pied droit dans le pantalon. Toujours on commence par la droite plutôt que par la gauche. Même les gauchers, commençons par le côté droit, parce qu'au niveau mystique, le côté droit, c'est chesed. Chesed, c'est la bienveillance, alors que le côté gauche, c'est la rigueur céleste. C'est bien de commencer aussi par le haut et descendre par le bas. La kippa, qu'est-ce qui est le plus important? Quelqu'un maintenant sort du mikvé tout nu, d'accord? Il sort de la salle de bain. Qu'est-ce qu'il met en premier? Il y en a qui disent le caleçon, pour être plus à niveau génital. Il y en a qui disent non, la kippa d'abord. C'est pas tranché. Mais comprenez que la kippa, ça passe avant tout. C'est une chose qui est importante. Avant le maillot de corps, avant les pantalons. Donc, ou caleçon ou kippa, après maillot de corps, rapidement, talit de katane. Parce que chaque seconde que tu portes un talit de katane, tu fais une mitzvah tassée de la Torah qui vaut comme les 613 lois réunies. Comment perdre une seconde? Donc, au lieu de mettre le pantalon et perdre encore une seconde, tu vas mettre ton talit de katane, tu mets vite ton maillot de corps, talit de katane, après tu mets le pantalon. Au niveau des chaussures, on met d'abord la chaussure droite, ensuite la chaussure gauche. Au niveau de lacer les chaussures, on lace d'abord la gauche, après la droite. Comme les tefilines qu'on noue, d'accord, sur le côté gauche, on va aussi nouer nos chaussures sur le côté gauche d'abord. Quand on enlève les chaussures, on enlève d'abord la gauche, après la droite. Quand on enlève les chaussures, on veut dénouer, il n'y a pas de priorité quel côté on dénoue en premier. Pour mettre, on noue d'abord gauche, après on noue droite. Pour démettre, pour enlever, pas besoin, il n'y a pas d'ordre dans lequel on noue en premier. Par contre, quand on met les chaussures, on met droite et après gauche. Quand on enlève d'abord gauche et on laisse droite en dernier, on enlève la droite après. Oui.
Tu veux dire Mishnah Brura pour le vêtement de t-shirt, il faut d'abord mettre la tête, que la droite et la gauche.
J'ai dit la tête, la droite, gauche, oui, la tête, j'ai dit passe avant.
Ah voilà, la tête
passe avant. De quoi tu parles pour mettre le t-shirt? J'ai pas compris.
Le t-shirt. Il faut mettre d'abord la tête.
Dans le corps, la tête passe d'habitude avant le reste du corps. Quand on se lave aussi, c'est bien se laver d'abord le corps, après d'abord la tête, après la droite du corps, on descend comme ça, d'accord, droite, gauche, jusqu'en bas. C'est bien d'agir ainsi. Aussi dans le fait de s'habiller. Je veux dire une chose importante, qu'est-ce que c'était? Oui, la kippa. Il est obligatoire de dormir avec la kippa, messieurs. Ouais, on dort avec la kippa, on la met, quand tu dors sur, comme ça, tu la mets un peu comme ça, d'accord? Et quand tu dors comme ça, tu la mets un peu comme ça, parce que personne ne dort, comme je vous rappelle, ni sur le ventre, ni sur le dos, on dort sur le côté. Donc la main, pour que ça tienne bien, et puis si au milieu de la nuit ça tombe, ça tombe. Au milieu du sommeil, tu te rappelles, tu remets sur la tête, d'accord? Il faut avoir le réflexe de dormir. Le Mishabura conseille d'acheter un bonnet spécial de nuit, comme ça, qui fait que comme ça tu es bien attaché, ça tient bien la tête. Avec les kippot aujourd'hui, normalement, on a les cheveux qui ne sont pas trop longs, ça tient bien normalement, toute la nuit, on se lève et on dort avec la kippa sans cesse.
C'est l'application de tous ces détails quotidiens et des répercussions dans les yeux.
Absolument. Donc la question, est-ce que l'application de ces détails quotidiens ont-ils une répercussion dans les yeux? Absolument, oui, grande, importante, énorme, beaucoup, beaucoup. C'est comme ça qu'on doit faire d'abord pour être en pureté. Ensuite, c'est comme ça que Dieu nous demande de faire. Ensuite, c'est comme ça qu'on montre notre amour à Dieu. Et c'est la halakha. Je n'ai pas dit maintenant des choses qui sont... C'est le smic du bon juif. Bon, on s'arrête. Oui. Et alors? Il est interdit de marcher plus de 4 pas avec la kippa, sans la kippa, mais il est bien d'avoir la kippa sans cesse sur sa tête, pour avoir la Yirat Shamayim, sans cesse. Il est bien. Même quand on dort. Même quand on dort, ça fait rien. Absolument. Ça mène la Yirat Shamayim aussi quand on dort. Oui, absolument. Tzitzit. Alors, tzitzit. La mitzvah de tzitzit, on en parle la prochaine fois, elle a lieu que lorsqu'il fait jour. Néanmoins, il est conseillé d'après la Kabbalah, comme ça dit le Ben Ishra, de dormir avec le talit, avec le talit katan aussi quand on dort. Donc on dort avec le talit katan, c'est très bien aussi. Ensuite, ça a aussi une faculté de protection des forces impures durant la nuit. Bahou Hadonai, Olam Amen.